France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Les hommages ont été très nombreux hier et encore aujourd'hui aux États-Unis, dans le monde entier, à la suite de l'annonce de la disparition de Toni Morrison hier à 88 ans à New York. Barack Obama, pour citer l'ancien président américain, a parlé de trésor national pour les États-Unis, mais qui rayonnait donc dans le monde entier. Évidemment, Toni Morrison, prix Pulitzer en 88 pour Beloved, prix Nobel en 93 pour l'ensemble de son œuvre. Elle a su, tout au long de sa vie et tout au long de ses livres, mettre les mots finalement sur la condition des Noirs aux États-Unis, sur l'histoire, l'héritage de l'esclavage et sur l'émancipation des Noirs qui est encore bien souvent un horizon à atteindre. Jean-Guy Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivain et traducteur d'auteurs anglophones, Salman Rushdie, Michael Collins et Toni Morrison. Toni Morrison qui laisse une œuvre d'une puissance remarquable, sa maison d'édition française, Bourgois, on recevra tout à l'heure donc Dominique Bourgois, oui. Parle d'une écrivaine au style tellurique et sensible. Vous qui l'avez traduite donc et êtes allé mot à mot dans l'univers de Toni Morrison, vous souscrivez, vous parleriez vous aussi de style tellurique?
Oui, c'est sur l'écriture, parce que on parle beaucoup de la militante, si j'ose dire, de la cause noire aux États-Unis, mais je voudrais dire que c'est d'abord un écrivain. Parce que si elle était militante, elle écrirait des essais et avec des slogans politiques, elle écrit de la littérature. Et c'est ce qui fait la force de son œuvre, c'est que elle met en scène des personnages et puis elle a une écriture absolument, alors tellurique disait Dominique Bourgois, une écriture absolument prodigieuse. Je prendrai comme exemple la première phrase d'un de ses romans, Paradis, qui est « They shoot the white girl first ». Il tue la jeune blanche d'abord, ou il tue la jeune fille blanche pour commencer. Comment traduire cette phrase? Et je me suis posé le problème, non pas de la signification, mais du rythme de la phrase, qui est un demi-alexandrin, si j'ose dire. Mmh. Et j'ai traduit « il tue la jeune blanche ». Et je ne pouvais pas dire en premier, qui est un phonétiquement, ou pour commencer, et j'ai dit d'abord, parce que derrière il y a le son mort, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais pour donner à cette phrase qui ouvre un roman absolument somptueux, lui donner une dimension presque au niveau phonétique et grammatical, une dimension d'ouverture tragique d'un roman. Voilà. Et c'est ça l'écriture de Toni Morrison.
Paradise, dans lequel d'ailleurs elle a voulu effacer aussi les références à la couleur. On y reviendra, on parlera de politique dans un instant, mais parlons d'abord de l'écrivain, puisque, et vous avez bien raison, Jean-Guy Loiseau, vous évoquez d'abord cet aspect-là de Toni Morrison, qui a vécu toute sa vie dans la littérature. Elle a été éditrice. Elle a écrit énormément, elle n'a pas écrit d'ailleurs que des romans.
Non.
Sa vie était tournée vers la littérature, elle a d'ailleurs commencé assez tard à écrire.
Oui, assez tard. Elle était aussi professeure à Columbia et elle était dans une maison d'édition très importante aux États-Unis. Et donc elle est un pivot à la fois par son activité professionnelle et par sa littérature. Et elle s'est imposée, alors je crois très vite, avec son premier roman.
L'œil le plus bleu.
L'œil le plus bleu. Et je me souviens, je lui avais demandé pourquoi l'œil le plus bleu et pas les yeux les plus bleus, puisque c'est une petite fille qui rêve d'avoir une petite fille noire qui rêve d'avoir une poupée blanche avec des yeux bleus, ouais. Comme Shirley Temple.
Et elle s'appelle Piccola, cette petite fille.
Et elle m'a dit, c'est pas l'œil, c'est the stare, c'est-à-dire c'est le regard. Et dans le regard de cette petite fille, il y a déjà toute l'aliénation que connaît sa mère. Et ça, c'est tragique, parce que la mère qui vit dans un quartier très pauvre avec cette petite fille travaille dans un quartier riche blanc. Et dans cette maison où il y a tout ce qu'elle n'a pas chez elle, c'est une cuisine impeccable avec les instruments modernes. Elle a une petite fille blanche, magnifique, à qui elle peut faire de la pâtisserie, à qui elle en oublie sa propre fille qui vit dans la misère dans le quartier noir de la ville. Et il y a cette confrontation, cette opposition exprimée dans une écriture, moi je dirais flamboyante, tellurique, qui fait trembler les choses.
On va en écouter un extrait de L'œil le plus bleu. La force qu'elle avait, Toni Morrison, la puissance qu'elle dégageait physiquement, et vous l'avez connue, vous venez de le dire, oui. Jean-Guy Loineau, se lisait aussi dans ses pages.
Ah oui, ah oui. D'abord dans le personnage, c'était un personnage avec un rire et une présence physique très très forte. Dans ma vie, il y a deux personnages qui m'ont très impressionné. La première, c'est Toni Morrison, et deuxième, c'est Nelson Mandela. Mmh. Engagés tous les deux, l'un politique et l'autre littéraire, dans le même combat, si j'ose dire, mais dans des univers très très différents, encore que l'origine est la même. Et elle avait un rire extraordinaire de présence, et on sentait derrière elle une espèce de richesse. Et d'amitié. Elle s'adressait aux gens avec beaucoup d'amitié, beaucoup de présence. Et un personnage tout à fait étonnant.
Vous avez évoqué ce roman, L'œil le plus bleu, publié en 70, son premier roman. Certainement pas un hasard d'ailleurs qu'il soit consacré au regard, parce que l'altérité et le regard des autres, et oui. Cette façon de juger, de jauger, était au cœur aussi de sa littérature. Hein.
Oui, par exemple dans Paradis, qui est le quatrième roman, je crois, qui date des années 90. Dans Paradis, il y a deux univers côte à côte. Il y a un ancien couvent dans lequel des femmes blanches perdues dans l'Amérique terrible viennent se réfugier. Et à côté de ce couvent, il y a un deuxième lieu, c'est un village où tous les habitants sont noirs. Ce village a été créé à la fin de la guerre de sécession, quand des noirs ont quitté les régions esclavagistes pour venir s'installer, faire ce village. Et là, je vais raconter une petite anecdote qui m'a énormément appris sur l'écriture de Toni Morrison. Je n'arrivais pas à bien comprendre qui était qui dans ce village, parce qu'il y a tous les habitants qui sont là, et je voyais plus leur rapport, parce que il y avait plusieurs générations qui s'étaient succédées dans ce village. Et alors j'ai repris le livre, et très en détail, j'ai fait l'arbre généalogique du village, que j'ai retrouvé d'ailleurs, que j'ai sous les yeux, et j'étais très fier de mon travail, et je lui ai fait voir, et elle m'a dit « Ah, surtout pas !» Cacher ça, il faut surtout pas dire ça. Et j'ai compris que la difficulté à pénétrer cet univers du village était un des éléments de son écriture. Et là, elle m'a fait penser à Faulkner. Parce que dans Faulkner, il y a aussi ces instants, ces moments où tout d'un coup, on a une difficulté à pénétrer dans son récit. Et là, je me suis rendu compte que c'était très volontaire, très construit, très conscient.
Exactement comme on a du mal parfois à rentrer dans l'Amérique terrible. Vous venez de dire l'Amérique terrible, Jean-Guy Loineau. C'est ça, elle revendiquait une filiation avec William Faulkner.
Oui, bien sûr. C'est vraiment les plus grands écrivains américains du siècle. Et la première phrase du roman, c'est « Il tue la jeune fille d'abord, la jeune blanche d'abord ». Ce sont les gens du village qui croient que ces femmes blanches perdues vont leur apporter le malheur. Et tout ce qui se passe mal dans le village, ils vont en accuser et ils vont renverser les choses pour aller tuer les femmes qui sont dans cet ancien couvent.
Un samedi après-midi, dans la pauvre lumière du printemps, il est entré chez lui en titubant et il a vu sa fille dans la cuisine. Elle faisait la vaisselle. Son dos droit était penché sur l'évier. Choly l'a aperçu indistinctement et il était incapable de dire ce qu'il voyait ou ce qu'il sentait. Puis il a eu conscience de son malaise. Et ensuite cela s'est dissous en plaisir. Ses émotions se sont enchaînées en passant de la répulsion à la culpabilité, à la pitié, puis à l'amour. Sa répulsion a été une réaction devant sa jeunesse, sa faiblesse, son impuissance. Son dos était voûté d'un côté, sa tête penchée de l'autre, comme si elle se protégeait d'une gifle permanente. Pourquoi avait-elle cet air de chien battu? C'était une enfant sans problème, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas heureuse? L'affirmation claire de ses souffrances était une accusation. Il voulait lui briser le cou, mais tendrement. Le remords et l'impuissance sont montés en lui comme une bile. Que pourrait-il jamais faire pour elle? Que lui donner? Que lui dire? Que peut dire un noir liquidé au dos voûté de sa fille de 11 ans? S'il regardait son visage, il verrait ses yeux hagards et pleins d'amour. Le côté hagard l'irriterait, l'amour le mettrait en fureur. Comment pouvait-elle l'aimer? Est-ce qu'elle n'avait pas deux sous de jugeote? Qu'est-ce que pouvaient faire ses mains calleuses pour l'obliger à sourire? Dans ce qu'il savait du monde et de la vie, qu'est-ce qui pouvait lui être utile? Qu'est-ce que ses gros bras et son esprit confus pouvaient accomplir qui lui vaudrait son propre respect et qui lui permettrait d'accepter l'amour de sa fille?
Toni Morrison, lu par Guillaume Gallienne, vous l'avez certainement reconnu, c'était un extrait de L'œil le plus bleu, premier roman de Toni Morrison, publié en 70 aux États-Unis, traduit par vous, Jean Guilloineau, et publié en France aux éditions Bourgoin en 94. Situez-nous cette scène qu'on comprenne bien, pour ceux qui n'ont pas lu L'œil le plus bleu, qu'on comprenne bien toute la force de la littérature de Toni Morrison.
C'est une scène de viol par amour, c'est terrible, parce qu'elle renverse les valeurs. C'est-à-dire que la situation générale des Noirs fait que les valeurs n'ont plus le même sens par des gens qui sont habités par une morale, mais qui renversent cette morale. C'est une véritable, j'allais dire, la plus grave dénonciation qu'on peut faire du racisme qui détruit dans les êtres, à la fois chez les racistes, mais chez les ostratisés, chez les gens qui sont rejetés, qui détruisent les valeurs morales, qui détruisent les fondements d'une société. Et c'est le langage qui traverse toute l'œuvre de Toni Morrison.
Et cette thématique-là, effectivement, avec d'autres, hein, on va continuer à en parler, l'enfance, la transmission, évidemment, et puis l'altérité, le regard de l'autre, là, on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, Jean Guilloineau, restez avec nous, parce qu'on va continuer cette émission et cette discussion sur Toni Morrison. Il est 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
8h36, écrire demande un effort pour comprendre ce que signifie être humain. Nous poursuivons ce matin notre hommage à Toni Morrison, décédée hier, prix Pulitzer pour Beloved en 88. On va revenir sur ce roman, prix Nobel de littérature également. Jean Guilloineau est toujours avec nous, écrivain et traducteur de Toni Morrison, et nous sommes rejoints par Dominique Bourgois. Bonjour à vous.
Bonjour.
Des éditions Bourgois, la maison en France de Toni Morrison, que vous avez également, comme Jean Guilloineau, bien connu, Dominique Bourgois. On parlait il y a quelques minutes de sa littérature et de l'écrivaine qu'elle était. On parlait aussi de la difficulté parfois qu'a eu Jean Guilloineau à traduire ces mots, ces lignes et ces pages de Toni Morrison. Vous qui l'avez bien connu, Dominique Bourgois, et qui parlait donc de littérature tellurique, parlez-nous de la femme avant que l'on en vienne peut-être aux aspects plus politiques de son œuvre.
Et je crois que je salue Jean Guilloineau, je salue son travail. Vous savez, être éditeur, c'est avant tout être responsable. Et quand quelqu'un comme Toni Morrison vous confie son œuvre, quand on sait à quel point elle choisissait chaque mot, à quel point chaque mot était réfléchi et pas jeté comme ça sur le papier, à quel point tout avait une importance, la traduire était pour nous une exigence que j'ai partagée avec les traducteurs, une responsabilité. Et sa confiance vis-à-vis de la maison est quelque chose qui nous lie tous et qui fait de nous une communauté. On a traduit Toni Morrison et ça, c'était vraiment très, 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 comment vous dire, ça nous responsabilise. Elle avait été éditeur elle-même, donc elle savait très bien la qualité, l'exigence de notre travail. Et depuis hier, moi, je reçois des quantités de messages qui me bouleversent parce que je me rends compte à quel point on a créé autour d'elle une communauté et de gens qui ont de la gratitude. Et ça, c'est magnifique. Je ne connais pas beaucoup d'écrivains qui génèrent ça. Alors que oui, peut-être elle semblait intimidante. Mais nous qui l'avons bien connue, moi qui l'ai connue pendant des années et qui ai partagé tellement de moments de vie avec elle, bah, j'étais, voilà, elle était moins intimidante. Mais il ne faut pas dire qu'elle était tellurique et tout ça. Par exemple, c'était un professeur magnifique. Elle a adoré enseigner. Elle voulait enseigner. C'est une des relations qu'elle a préférée, c'est la transmission. Je me souviens des cours qu'elle avait donnés à l'école normale de la rue d'Ulm, à l'invitation de Pierre-Yves Pétillon, mais c'était magnifique. J'ai assisté à des cours de Toni Morrison à Princeton. C'était presque une ambiance religieuse. Chaque élève, chaque personne qui était dans la salle écoutait chaque mot. Et ça, c'est une part importante de son travail, la transmission des mots et l'exigence. Et je pense que Jean Guilano sera d'accord avec moi ce matin.
Bon, on va lui poser la question,
Jean Guilano. Oui, bonjour Dominique, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais, dans un livre qui s'appelle « Playing in the Dark », où elle explique, c'est un livre théorique sur l'écriture, sur l'Amérique et tout. Il y a un passage que je trouve tout à fait extraordinaire et je me demande s'il n'est pas en partie valable pour la France aujourd'hui. Elle dit « Le mot race est devenu métaphorique, une façon de citer et de déguiser des forces, événements, classes, expressions de déchéance sociale et de division économique, beaucoup plus menaçant pour le corps politique que n'a jamais été la race, entre guillemets, biologique. » Entretenu à grands frais, économiquement malsain, avantages politiques douteux et inutiles dans les campagnes électorales, le racisme se porte aujourd'hui aussi bien qu'au siècle des Lumières. Je pense à l'Europe aujourd'hui. Toni Morrison parle de l'Amérique il y a 30 ans ou 40 ans, et là je trouve que cette phrase est tout à fait fantastique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe et dans le monde.
Et d'actualité, Jean-Guilano, pour elle, on ne naît pas raciste, on le devient. C'est ce qu'elle expliquait aussi, hein, Toni Morrison. C'est une construction sociale qui dépasse du coup le concept de race.
Parce que, évidemment, le racisme implique le rejet de l'autre, pas seulement la distinction, mais le rejet de l'autre, et s'appuie sur une histoire tragique, très souvent, qui est liée à la colonisation, très ancienne de celle de l'Amérique, plus récente celle de l'Afrique. Et moi qui ai traduit aussi des auteurs sud-africains, dont Nadine Gordimer, également prix Nobel de littérature en Afrique du Sud, on retrouve les mêmes phénomènes, les mêmes attitudes et les mêmes destructions des sociétés.
Il n'existe pas d'étrangers, il n'existe que des versions de nous-mêmes. Dominique Bourgois.
Oui, enfin, sauf que Toni Morrison insistait pour dire qu'on devait devenir ce qu'on est. Quand elle disait on ne se remet jamais d'être né à Lorraine, Ohio, c'est très simple. Voilà ce qu'elle voulait dire. Mais ce que je voulais dire ce matin, c'est que je suis vraiment contente, heureuse que le président Trump n'ait pas commenté la mort de Toni Morrison. J'aurais trouvé ça indécent, et elle aussi.
Il l'a probablement pas lu. C'est certainement pas pour vous contenter, Dominique Bourgois.
Je pense qu'il ne l'a pas lu. Je suis contente ce matin qu'ils aient pas eu l'outrecuidance de lui faire lire un texte. Parce que il a pourri les derniers mois de sa vie. Et pourquoi il a pourri les derniers mois de sa vie? Parce que soudain revenait tout ce contre lequel elle avait lutté, tout ce qui l'avait blessé, toute cette image. Et mais je vous promets, c'est pas une posture ce matin. Je suis vraiment heureuse qu'il ait pas écrit sur elle. Voilà, le président Obama a fait un communiqué très beau, très simple, très.
En parlant de trésor national, elle a expliqué, oui, Toni Morrison.
Il lui avait donné la médaille of Freedom il y a 2 ans. Et quand je lui avais demandé, alors, c'était comment, est-ce que tu étais contente? Elle m'a dit, non, mais j'y suis allée simplement parce que je suis Bob Dylan. Elle avait toujours un moyen de mettre une distance.
Il lui a fallu attendre 2008 et l'élection précisément de Barack Obama pour qu'elle dise enfin se sentir pleinement américaine. Depuis 1931, effectivement, ça a pris un peu de temps, hein, Dominique Bourgois.
Pourquoi américaine? Parce que soudain il y avait une reconnaissance. Parce que soudain c'était une famille noire américaine qui était la première famille des États-Unis, une famille normale avec un couple, des enfants, une grand-mère. C'était une image, c'était une incarnation de tout ce qui avait été refusé et qui l'était pendant toute la présidence, les deux présidences du président Obama, et qui revient d'une manière tellement violente en ce moment. Et moi j'ai vu Toni Morrison au mois de mai, et je vous promets. Elle, ça restait un tournant de ce qui était en train de se passer. Voilà. Et évidemment que, mais elle a toujours été, comment vous dire, elle a toujours pris une distance quand même. Quand j'avais entendu ce moment magnifique du président Obama qui chantait Amazing Grace dans cette école où il était revenu, dans cette église où il était venu rendre hommage, à la surprise de tout le monde, et c'est un moment bouleversant, regardez-le sur les vidéos, moi je le regarde de temps en temps, ça me donne les larmes aux yeux, et j'ai appelé Tony, et j'ai dit, mais Tony, quelle chance, vous avez un président qui ose faire ça, et elle m'a répondu, oui, mais tu te rends pas compte comme il chante faux.
Alors on va l'écouter, Tony Morrison, sur le président Trump, le président actuel aux États-Unis. C'était dans la grande librairie sur France 5, en avril 2018.
We have someone who is the...
Nous avons pour président la personne la plus rétrograde et la plus mal informée que je n'ai jamais vue. C'est douloureux. Et plus encore, c'est dangereux. Vraiment dangereux. Il vaut mieux que je ne prononce pas son nom, mon Dieu.
Don't say his name.
No.
Okay. We can call him number 45.
Numéro 45. Vous savez ce qu'il y a de plus intéressant à son sujet?
He cannot or has never.
Il ne sait pas rire. Ou alors ça ne lui est jamais arrivé. Il sourit, il fronce les sourcils, mais il ne sait pas rire.
Human experience.
C'est une expérience profondément humaine. Il en est incapable. Ça m'effraie. Parce que cet homme est au pouvoir depuis un an. Et moi, j'ai 87 ans.
Are you telling me that...
Si vous êtes en train de me dire que je vais mourir avec lui au pouvoir... Non, je vais survivre à ça. Point final.
Period. Jean-Guy Loiseau.
Ah, et c'est étonnant son rire et cette façon de parler de Trump qui est véritablement le contraire de tout ce qu'elle a cru, qu'elle a défendu, et surtout cette culture et cette intelligence de l'écriture. C'est vrai que devant Trump, il n'y a pas photo, comme on dit.
Elle n'avait pas peur de choquer, hein, Tony Morrison, dans son combat. C'est un combat, c'est une vie de combat, on peut le dire très, très clairement, une vie de combat avec les mots, avec la littérature, dans son métier d'éditrice aussi, quand on parlait tout à l'heure de ses biographies sur Angela Davis, notamment. Je veux voir un flic tirer sur un adolescent blanc et sans défense. Je veux voir un homme blanc incarcéré pour avoir violé une femme noire. Alors seulement, si vous me demandez, en a-t-on fini avec les distinctions raciales, je vous répondrai oui. Ça, ce sont ses mots aussi.
Bien sûr, elle décrit. Alors, il y a un roman d'elle qui est tout à fait extraordinaire, qui est le chant de Solomon, Song of Solomon, qui est c'est l'histoire d'un noir qui vit au nord des États-Unis et qui redescend vers le sud pour retrouver le pays d'origine de ses ancêtres. Et c'est comme un retour sur le passé, car il va retrouver... Le roman commence de façon très étonnante d'un homme qui a annoncé qu'il s'envolerait du toit d'un building à telle heure le lendemain. Et c'est l'évocation d'un mythe d'un noir arrivé d'Afrique et qui s'est envolé pour retourner dans le pays d'origine en Afrique. Et cet homme refait le voyage inverse, il redescend du nord au sud, qui est le chemin inverse de ses ancêtres. Et il va entendre une petite fille dans un village du sud chanter une chanson à la gloire de cet homme qui est retourné en Afrique en volant. Et la difficulté de la traduction du titre, c'est que le Song of Solomon, c'est aussi le cantique de Solomon, c'est-à-dire le cantique des cantiques dans la Bible. Et comment faire apparaître ça à un lecteur français? Il y avait une traduction qui disait la chanson de Salomon, parce que on fait référence à la petite fille qui chante la chanson, qui est une petite comptine d'une petite fille, mais en fait le roman c'est l'histoire de Salomon, et donc c'est le moi j'ai traduit le chant de Salomon parce que le mot a une valeur plus emphatique que le mot chanson. Et je me souviens qu'on en avait parlé avec Christian Bourgois, qui m'avait dit qu'il était tout à fait d'accord avec moi que c'était le mot chant qu'il fallait utiliser, même si pour le lecteur français, il y a toute une part du titre, de la signification du titre qui échappe malheureusement.
Dominique Bourgois, là-dessus ?
Il faut, parce que c'est bien que Jean Guilano le souligne, Madame Morrison était une grande lectrice de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Comme sa grand-mère ?
Il ne faut pas, oui, il faut pas l'oublier. Quand on lit ces livres. Mais moi, il y a un livre de Toni Morrison qui m'a beaucoup troublée, enfin, qui est Rome, qui est l'histoire de ce soldat noir qui rentre de la guerre de Corée, et qui traverse tous les États-Unis, sauf qu'elle dit jamais qu'il est noir. C'est jamais dit. Simplement, il faut faire attention. Et là, elle m'avait appris quelque chose qui est maintenant devenu un peu plus public à cause du film The Green Book. Toni Morrison m'avait expliqué qu'elle s'était servie d'une Green Book. J'avais dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, bah, c'était un guide de voyage pour les Noirs américains qui disait où ils pouvaient manger, dormir, se faire soigner, aller à la messe. Et j'avais fait venir un exemplaire du Green Book. Et pour les représentants avec lesquels je travaillais à l'époque et les libraires, j'avais fait imprimer ce Green Book pour qu'ils comprennent à quel point elle était exigeante. Que chaque lieu où ce soldat s'arrête, il est dans le Green Book. Et cette année, il y a eu beaucoup de succès en France. Et je crois que c'est parce qu'on avait fait ce travail d'explication qui rendait justice à son travail, à elle, non seulement d'auteur, mais d'éditrice. Chaque chose était vérifiée. Et le voyage magnifique et très douloureux et parfois violent de cet homme qui traverse tous les États-Unis, elle m'avait expliqué à quel point elle avait voulu que tout soit vrai. Et grâce au succès du film là, récent, qui a eu d'ailleurs, je crois, un Oscar, le Green Book est quelque chose que maintenant les gens connaissent. Mais c'est elle qui nous avait averti de ce livre et à quel point ça avait été utile.
Sur cette volonté qu'elle avait aussi, Toni Morrison, de s'affranchir, et vous l'avez dit à l'instant, Dominique Bourgois, de la couleur de certains de ses personnages, de la couleur de peau de certains de ses personnages, on avait évoqué tout à l'heure Paradise, dans lequel c'était le cas aussi, il y a effectivement Home. Aux États-Unis, disait-elle, la littérature écrite par des Africains-Américains est critiquée d'abord d'un point de vue sociologique. Serais-je autorisé enfin un jour à écrire sur des Noirs sans avoir à dire qu'ils sont noirs, exactement, finalement, comme les Blancs écrivent sur les Blancs, Jean Guilano. Ça, c'était une question aussi qui la taraudait.
Mais on en revient à ce dont on a dit tout à l'heure sur la dimension politique de son écriture, de son œuvre, son travail, et c'est pour ça que elle a une audience aussi importante, aussi bien aux États-Unis que dans le monde, c'est que elle fait un travail d'écrivain sur le langage, sur l'organisation du langage, dans lequel elle fait entrer toutes les tares de la société américaine qui sont fondées sur ce racisme ancestral qui dure et qui perdure. Et elle ne fait pas une écriture politique, elle fait une écriture hautement littéraire. Et c'est pour ça qu'il y a dans ses œuvres une puissance à la fois d'évocation et de conviction qui est irremplaçable. Vous avez cité tout à l'heure un autre écrivain qui est James Baldwin, qui est un très grand écrivain noir avec un livre exceptionnel qui s'appelle « Si Beale Street pouvait parler ». On s'aperçoit qu'il y a, j'ai pas envie de dire une école, mais il y a aux États-Unis un groupe comme ça de gens dont elle était sans aucun doute le caractère le plus dominant de cette écriture des Noirs aux États-Unis qui, comme on vient de le dire à l'instant, sont obligés de dire que leur personnage est noir, contrairement aux Blancs qui écrivent sur des êtres humains normaux, sans être obligés de dire qu'ils sont Blancs. Quoi.
Au fond, elle écrivait aussi sur un héritage, et notamment un héritage familial, évidemment, issu d'une famille ouvrière dans l'Ohio industriel des années 30. On va l'écouter, Toni Morrison, justement, sur cet aspect-là de son œuvre.
You have to understand that I was not interested in that legacy ever until I began to write. It was just my family and their idiosyncrasies and their stories. They came into play when I was looking for those silences and those absences in the literature. And then naturally what I filled it with was my recollections, my memories of my own people.
Mais il faut que vous sachiez d'abord que cet héritage ne m'intéressait pas le moins du monde tant que je ne m'étais pas mise à l'écriture. Et moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement cet univers familial avec ses idiosyncrasies, toutes les histoires que l'on se racontait. Mais ce n'est qu'après, lorsque je me suis mise à rechercher dans la littérature, ce silence et cette absence que je ressentais de façon très forte, qui affectait mon peuple. Et j'ai commencé à vouloir remplir ce silence et cette absence avec mes propres souvenirs.
Jean Guilouanneau,
oui.
Sur ce qu'on vient d'entendre.
Oui, par exemple, dans un roman, elle prend l'Ohio comme lieu de départ d'un des personnages. Et là, c'est très proche de sa propre vie, puisque elle reprend presque le lieu de, son lieu de naissance.
Lorraine,
pour prendre un de ses personnages qui va traverser l'Amérique et qui va quitter cet espace de son origine. D'une certaine façon, le village que j'évoquais tout à l'heure, qui est dans Paradis, c'est un peu aussi l'évocation de, pas de Lorraine, Ohio, parce que ça se passe pas dans l'Ohio, mais il y a ce foyer originel dans lequel, d'où on est sorti un jour, et c'est ce qu'elle expliquait à l'instant, dans un milieu pauvre, et il n'y a pas d'héritage, pas de legacy, comme elle dit, il faut construire sa vie tout seul dans une Amérique aussi. Style.
Merci beaucoup Jean Guilouanneau d'être venu ce matin, traducteur de Toni Morrison. Merci aussi à Dominique Bourgois qui nous a accompagnés pendant cette discussion autour de Toni Morrison. Je précise que vous ne travaillez plus aux éditions Bourgois, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Merci à vous. Les hommages à Toni Morrison continuent sur France Culture et sur franceculture.fr. Bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'archives et d'articles passionnants sur Toni Morrison qui donc est décédé hier. Il est 8h56 sur France Culture.